Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Nous continuons donc, mais une nouvelle série, numéro 1, et le titre sera « Né de nouveau et pourtant perdu. Est-ce possible ?» Dès que nous avons considéré Jésus-Christ comme étant notre Seigneur en personne et notre Sauveur, nous avons reçu de lui la vie éternelle en cadeau que personne ne peut plus nous reprendre, pas même Satan. Et cette vérité est la raison de notre grande joie. Il y a bientôt un autre aspect, bien sûr, qui est rarement remarqué dans l'ensemble de ses conséquences. Voyez-vous, Jésus dit dans son discours d'adieu que nous devons rester en lui et en sa sainte parole. Je répète que nous devons rester en lui et en sa sainte parole. Ce sont à la fois cet aspect et ses conséquences pour notre vie en tant que successeur du Christ que j'aimerais un peu davantage préciser et étudier maintenant. Dès que nous sommes nés de nouveau, de l'Esprit de Dieu, eh bien nous ne sommes plus de ce monde où nous devrions plus être tout à fait de ce monde. Mais bien sûr que nous vivons encore dans ce monde, ça c'est clair. Nous sommes devenus étrangers au monde et pour cela, le monde nous haït, nous aime pas. C'est confirmé dans Saint Jean chapitre 15 verset 18 et le chapitre 16 verset 4. Le souverain de ce monde, le diable ou Satan, selon Saint Jean chapitre 16, verset 11, et depuis le jour de notre conversion par le Christ, il est devenu notre ennemi mortel et, on peut dire, il va tenter par tous les moyens, jusqu'au dernier jour de notre vie terrestre, il va essayer de nous détourner du bon chemin. Et j'ai bien dit, ça, il va essayer de le faire jour après jour, jusqu'à la fin de notre vie terrestre, pour nous détourner du bon chemin, pour nous perdre. Et c'est pourquoi Jésus, la veille de sa souffrance, a prié pour nous. Aujourd'hui, il a dit, je te prie, ô Père, de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Saint Jean, chapitre 17, verset 15. Mais de les préserver du mal. J'ai dit ça, chapitre 17, Saint Jean, verset 15. La plus impressionnante, la plus subtile et par là même la plus dangereuse emprise que Satan met en œuvre contre nous est l'esprit de l'époque. C'est l'esprit de cette époque dans laquelle nous vivons actuellement. Par l'expression « esprit de l'époque », on comprend la pensée, une façon d'éprouver, de vivre dans une époque bien déterminée comme celle de nos jours. Les pensées et les sentiments des gens de notre époque ont subi un très fort changement vers le négatif, malheureusement. On le constate à la croissance incohérente de la criminalité et à l'augmentation de la violence dans les films télévisés, ainsi que dans les programmes même pour enfants. Ainsi, des notions comme l'éducation, le conseil et l'ordre, base d'une raison positive, comme elles le sont rapportées dans la Sainte Bible, sont aujourd'hui interprétées de façon absolument négative. Celui qui utilise aujourd'hui ces notions doit s'assurer qu'elles soient bien comprises afin d'éviter à son interlocuteur d'en faire une mauvaise interprétation. Au contraire, la luxure, la débauche, le meurtre, l'avortement et la désobéissance sont rendus banals, voire même légalisés. Le prophète Ésaïe parla, il a, à ce propos du jugement de Dieu, noté Ésaïe chapitre 5, versets 20 à 24, des mots assez fortes. Il a dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » C'est ce que se passe aujourd'hui, même dans les tribunaux, et qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, et qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Et c'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Car en effet, ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la sainte parole du Saint d'Israël. Celui donc qui, au travers de l'esprit de l'époque, et je parle surtout d'aujourd'hui, a causé des changements de valeur, ne s'est pas non plus arrêté devant l'Évangile, c'est bien en vain que s'est mise à l'épreuve la plus mensongère des scribes, selon Jérémie chapitre 8, verset 8. Et c'est ainsi que l'obéissance de nombreux prêcheurs de l'Ancien Testament est aujourd'hui légalement proscrite et mise de côté de la grâce de Dieu. Oui, on peut dire de la grâce de Dieu sera faite aujourd'hui une lettre de franchise pour un esprit de l'époque conformiste. Cela est commode. Et cela oriente vers une vie de consommation dans laquelle on ne devrait pas considérer les péchés avec autant de rigueur, surtout pas. Sous prétexte, voyez-vous, que à travers le sang de Jésus, absolument tout est pardonné, que vous fassiez n'importe quelle saleté. Je vais dans cette interprétation. Et je vois très bien une raison essentielle de la faiblesse des chrétiens actuels. Et je crois même que c'est la raison pour laquelle le réveil promis de Dieu n'est pas encore visible. Voyez-vous, Jean le Baptiste leur avait crié, et ce n'était pas des mots très flatteurs, il a dit « Raste vipère ». Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, selon Saint Luc chapitre 3 verset 7 et le verset 8. Et l'apôtre Jean soutient à ce propos que seule une vie différente, même totalement différente, un style de vie radicalement différent, qui est une véritable preuve que nous avons changé. Quand la confession des péchés ne conduit pas, ou on peut dire au soulagement des péchés, de nos péchés, quand cette confession des péchés que nous faisons n'améliore pas, ne change pas quelque chose en nous, c'est que nous nous trompons nous-mêmes. Car Dieu dit de même, il dit « ce peuple s'approche de moi de la bouche seulement, et m'honore seulement des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». Saint Matthieu, chapitre 15, verset 8, selon mon édition allemande. Et l'obéissance, il est dit, l'obéissance, écoutez bien, que cela vaut beaucoup mieux que les sacrifices. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. L'obéissance vaut quand même beaucoup mieux. Car j'aime la piété et non pas seulement les sacrifices et la connaissance de Dieu, je l'aime davantage que même vos holocaustes. C'est écrit dans Osée, au chapitre 6, verset 6. L'esprit de l'époque a opposé obéissance et amour. Voyez-vous? Oui. Voyez-vous, par le mot « obéissance », on ne pense pas à obéissance aveugle, pas du tout. Et déjà, s'imagine les frayeurs et les abominations du Troisième Reich, et par le mot « amour », on comprend aujourd'hui ceci, « fais ce qui te plaît », sexe sans limite, homosexualité y comprise, avec un mot, mangeons et buvons, car voyez-vous, demain, nous mourrons. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 32. L'amour propre est la réalisation de soi, de soi-même, où tout cela mène forcément tôt ou tard à la luxure et au meurtre, voire même au meurtre, ainsi que l'avortement, et pour finir à la perversion, la brutalité et même à la haine. Jésus-Christ dit lui-même à ce propos, il dit, comme le Père m'a aimé, eh bien je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit toutes ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici donc mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Saint Jean, chapitre 15, verset 9 jusqu'au verset 16. En effet, l'amour du Père a pour effet l'obéissance et le dévouement du Fils. Donc, si Jésus dit, il a appris, bien qu'il fût pourtant le Fils, par les choses qu'il a souffertes, il a tout appris par tout ce qu'il a souffert, selon Hébreux chapitre 5, verset 8, combien plus pour nous, pour vous et pour moi, car le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, car le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Selon Saint Jean, chapitre 13, verset 16. Le nouveau bien subsiste, je répète, le nouveau bien subsiste en ce que Dieu inscrit sa loi dans le cœur des gens et qu'il leur pardonne leurs péchés afin qu'ils puissent le reconnaître. Nous devons apprendre à reconnaître que nous sommes des pécheurs. Pour ça, il faut ôter un peu de notre fierté, de notre orgueil, c'est-à-dire avoir un peu d'humilité. Apparemment, il ne pouvait pas le reconnaître véridiquement parce qu'ils étaient prisonniers de leur péché, vendus à la servitude de leur péché, selon Romains 7, verset 14. Pardon. Les péchés séparent toujours de Dieu, selon Ésaïe 59, verset 2. Je répète, les péchés vont toujours nous séparer de Dieu. Quand le péché ne sépare plus et que l'Esprit Saint de Dieu, c'est-à-dire la loi et l'Esprit Saint, parce qu'elle vient de Dieu, elle habite le cœur des hommes et le véritable caractère de Dieu peut être connu, oh oui, c'est-à-dire l'amour, elle sera là. L'amour sera là, l'amour de Dieu en nous. Et c'est pourquoi le Nouveau Testament est pour nous tous, c'est l'absolue révélation de l'amour de Dieu. Et c'est ainsi que Jésus-Christ dit à ses disciples, écoutez bien, ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Saint Jean, chapitre 15, verset 22, non, verset 12, je répète, Saint Jean, chapitre 15, verset 12. C'est là que se trouve le commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Moi, votre Seigneur bien-aimé. L'apôtre Jean apporte dans sa première lettre une explication particulière, très claire, de l'expression « si nous gardons ses commandements », par là, nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons les commandements de Dieu, nous prouvons que nous le connaissons, que nous l'avons connu, que nous avons appris à mieux le connaître. Car celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est tout simplement un menteur et la vérité n'est point en lui. Or, celui qui garde sa parole, c'est-à-dire l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui, selon la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 3 à 5. Et si quelqu'un dit, par exemple, « J'aime Dieu, vous savez, mais qu'il haïsse son propre frère », eh bien, il vaudrait mieux faire attention de dire « J'aime Dieu » en haïssant mon frère, car dans ce cas, je suis un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, et parfois qu'il voit plus d'une fois par année tout de même, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit même jamais ? Premier épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 20. Voyez-vous, le Saint-Esprit a pour conséquence sur nous la foi en Dieu. C'est ça la conséquence de l'Esprit-Saint. C'est de nous accorder la foi en Dieu. Or, la foi, elle conduit à l'obéissance de Dieu. L'obéissance, c'est le terme d'amour en Dieu. L'amour en Dieu, c'est d'autre part cet amour qui a pour conséquence le Saint-Esprit en nous et les fruits de nous tous sont le premier lieu de joie dont l'Écriture sainte dit qu'elle est notre force, selon Néhémie, chapitre 8, verset 10. Et c'est pourquoi Jésus, la veille de ses souffrances, il pouvait parler aux apôtres de sa joie qu'il ressentait vis-à-vis de l'obéissance qu'il avait à l'égard de son Père, ce qui par ailleurs provient encore des fruits, sera énuméré dans Galates chapitre 5 verset 22. Il s'y trouve réunis toutes les qualités du caractère de Dieu lui-même. Et là, nous voyons comment nous recevons une part de la nature divine. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4. Si nous avons compris, chers amis, que les fruits de l'Esprit Saint peuvent grandir en nous à travers la foi, alors l'amour et l'obéissance que va nous transformer, cet amour va nous transformer dans l'image de Jésus, de gloire en gloire. Elle va donc nous transformer, nous changer. Je voudrais ajouter, améliorer beaucoup de choses en nous. Notez 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Alors, là, nous sommes toujours, toujours, encore plus proches de Dieu et nous commençons à mieux connaître Dieu. Nous voyons que la connaissance intellectuelle, à elle toute seule, ne suffira pas si elle naît aussitôt. Nous la transposons par notre amour et nous la transposons en, on peut dire, en Dieu. En fait, on peut dire en lui obéissant tout simplement. Je répète cela. Nous voyons que la connaissance intellectuelle à elle toute seule ne peut pas suffire. Et si elle va naître en nous, aussitôt, nous allons la transposer par quoi? Mais par notre amour en Dieu. Si vous voulez, en fait, tout simplement en lui obéissant encore davantage. Et cette connaissance de Dieu, comme la Sainte Bible la comprend, n'est à aucun moment une toile achevée. Elle est au bien au contraire comme un film qui a tourné sa dernière scène près de notre dernier souffle sur cette terre, parce que notre connaissance est et demeure incomplète. Moi, j'en ai vraiment, comment est-ce qu'il faut dire, reçu la conviction absolue parce que j'ai compris que il me manque encore énormément de connaissances de la Sainte Parole. Énormément. Si nous suivons Jésus-Christ, nous restons en mouvement et nous restons dans la consécration qui engendre les fruits de l'obéissance. Et par elle, nous approfondissons notre connaissance de Dieu. Bien sûr, tout cela n'est pas automatique. Et je reconnais qu'il y en a qui ont beaucoup, beaucoup plus de facilité que moi, par exemple, et qui peuvent lire un texte et déjà le mémoriser, ce qui n'est absolument pas mon cas. Donc, je fais partie, et j'ai pas honte de le dire, de ceux, vu l'enfance épouvantable, puis tout le reste c'est trop long à vous expliquer, sont restés beaucoup en arrière. Il y a un mot pour cela, hein, et il vaut mieux pas trop le dire. Donc, chers amis, Dieu se plaint au travers de Osée. Notez Osée, chapitre 4, verset 6, car Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ça, c'est une parole grave. De la connaissance de Dieu dépend évidemment la vie et la mort. Et je suis heureux que, à mon grand âge, il a eu pitié et compassion, le Seigneur, et il est en train de m'inculquer toutes ces vérités que j'aurais dû déjà recevoir il y a un demi-siècle. Mais ce n'était pas la faute au Seigneur. Vous l'avez bien compris. C'est lui qui n'apprend pas à connaître Dieu par la foi, ainsi l'amour et l'obéissance, eh bien celui-là restera séparé de Dieu et il est en quelque sorte détruit. C'est pourquoi il y a une immobilisation dans la succession. Il y a le refus inconscient de l'obéissance. Et ceci est dangereux, il s'en suivra la mort de l'esprit. Vous pouvez être vivant, voire même un athlète, mais un mort vivant, si votre esprit est mort. L'exemple le plus évident, nous l'avons en la femme de Lot, Genèse chapitre 19, verset 26. Et Jésus lui-même a averti, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Saint Luc chapitre 9, verset 62. Et rappelez-vous, la femme de Lot, elle était ni païenne, ni sans aucune connaissance de Dieu. Et pourtant, vous pouvez apprendre vous-même la suite. Contradictoirement, semble-t-il, il est dit dans Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de damnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils ne seront plus damnés. Donc, n'ayons pas peur. Et essentiel et juste, cet autre superbe passage qui se trouve dans Romains chapitre 8, verset 38, où il est dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, donc j'ai dit domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, qu'ils soient de n'importe quel ordre, ni la profondeur, ni la hauteur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. » Oui, c'est sérieux tout cela. Ces deux versets de l'Épître aux Romains sont en vérité des pierres très précieuses de l'Écriture sacrée que nous ne pouvons pas comprendre assez profondément dans nos cœurs et pour lesquelles nous devons ou nous devrions surtout remercier Dieu chaque jour. Ces versets parlent de ce que Dieu nous a offert. Et ces versets disent que ce cadeau de dehors ne peut être anéanti ou, si vous voulez, annulé. Il parle du salut que Dieu nous a offert en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a pas de damnation pour ceux qui sont donc en Jésus-Christ. Donc, rester en lui, c'est avoir sa parole dans notre cœur. Je répète, rester en lui, en Jésus-Christ, c'est avoir sa parole dans notre cœur et notre esprit, et avec amour, de garder ses commandements dans l'obéissance. Saint Jean, chapitre 15, versets 7 à 10. Et c'est ce que la Bible nomme la sanctification. Si je reste en Jésus, si je prends soin d'une relation quotidienne qui est renouvelée avec lui et que chaque jour je reconnais ses volontés pour moi et je les accomplis, alors là, je serai changé par lui, tôt ou tard, et plus vite qu'on pense, et lui sera toujours plus ressemblant en nous. Ainsi, cela veut dire que Jésus, de par Dieu, s'est glorifié pour nous, pour vous et pour moi. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Il existe ainsi le salut qui est offert de Dieu, qui est irrévocable, opposé à notre sanctification. C'est pour cela que vaut pour nous l'avertissement des apôtres qui disent « Ainsi mes bien-aimés, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Je répète, c'est pour cela que vaut pour nous, pour vous et pour moi, l'avertissement des apôtres où il est dit « Ainsi mes bien-aimés, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Philippiens, chapitre 2, verset 12. Philippiens, chapitre 2, verset 12. Par l'expression « avec crainte et tremblement », il faut bien comprendre que c'est la crainte de Dieu et non pas, attention, non pas la peur de Dieu. C'est pas pareil. La crainte de Dieu dirige notre regard de nous vers lui qui est le juge des pensées et des sentiments des cœurs. Hébreux chapitre 4, verset 12. Et cette crainte de Dieu nous protège d'une part de notre assurance qui rend présomptueux et somnolent parfois, d'autre part d'une réflexion crispée sur soi-même qui bannit toute joie et tout amour de la succession. Tant que le salut nous est offert par Dieu, ainsi la sanctification, c'est la volonté de Dieu pour nous. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. C'est notre part. Il n'y a auprès de Dieu aucun automatisme. Avec la nouvelle naissance, eh bien, nous n'avons pas obligatoirement en poche notre billet pour le ciel, en tout cas pas automatiquement. Car Dieu veut avant tout, il veut notre amour et il veut notre obéissance spontanée. C'est ce qu'il désire. Nous ne pourrons jamais nous payer le salut de Dieu. En tout cas, je devrais vivre 1000 ans pour pouvoir comprendre que je ne pourrai jamais payer le salut que mon Père Céleste m'a accordé par grâce et amour par son Fils Jésus-Christ. Et toujours dans les circonstances à la portée de chacun. Mais Dieu nous appelle, il nous appelle à ce salut conforme, il nous appelle à vivre comme ses enfants saints. Et pas n'importe comment. Je répète, notre Père Céleste nous appelle à ce salut conforme, c'est à vivre comme étant ses enfants saints, obéissants, reconnaissants et respectant tous ses commandements et pas en vivant n'importe comment. Qui un jour devront hériter de la richesse de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, je demande maintenant toute votre attention, car c'est pour vous une question de vie ou de mort. Voyez-vous, le salut de Dieu en Jésus-Christ, en notre Seigneur, personne va pouvoir vous l'ôter. Mais il y a un mais. Nous pouvons éventuellement le perdre en route. On ne croirait jamais que c'est possible. Il y en a qui disent haut et fort, et le prêchent même, une fois sauvé, toujours sauvé pour l'éternité, alléluia, amen. Pensez un peu à un disciple qui pouvait prêcher, comme tous les autres disciples, qui pouvait même, et il avait reçu, le don de guérison comme les autres. Il pouvait donc servir son maître comme tous les autres. Et pourtant, n'a-t-il pas mal fini? À vous de découvrir, qui sait, je crois que c'est Judas. Que cela puisse arriver et comment nous en arrivons là, cela doit être éclairci par quelques passages de l'Écriture sainte. Car Jésus dit dans Saint Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas forcément tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux, mon Père céleste, c'est celui qui fait sa volonté. Car plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, et je pense à Judas, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus parle ici des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Vous l'avez bien compris, j'espère. Je répète, Jésus parle ici, non pas de païens qui n'ont jamais entendu prêcher l'Évangile, il parle ici des enfants de Dieu, qui sont même nés de nouveau, et qui sont bénis par l'Esprit Saint. Il ne parle pas des païens. Et tout cela sera démontré par les actions qu'ils ont accomplies. Récits prophétiques, exorcisme de démons, et accomplissement des miracles ne peuvent être réalisés qu'avec l'Esprit Saint. Comment se peut-il, oui, comment, que les chrétiens qui apparemment ont accompli la besogne du Seigneur fidèlement, entre guillemets, soient malgré cela repoussés par lui? C'est étrange, ça paraît presque injuste. Mais Jésus y répond déjà au début. Le problème n'est pas d'accomplir l'ouvrage chrétien, mais plutôt d'accomplir les volontés du Père. Et quelle est la volonté du Père, si ce n'est pas cet ouvrage? 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut dire par là, il faut davantage votre sanctification, pas seulement de travailler du matin au soir, en vivant quand même à côté de cela n'importe comment. La volonté de Dieu est que nous nous remodelions en l'image du Christ, qui, conformément à cela, ne se laisse pas laver quotidiennement, tels que les pieds par Jésus, qui s'accorde la rémission de ses péchés, eh bien celui-là n'a pas du tout sa place avec Jésus. Saint Jean, chapitre 13, verset 8, et Jésus ne le connaît même pas. Donc le Fils de Dieu a dit lui-même, Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Saint Jean, chapitre 5, verset 19. Dans Saint Matthieu, chapitre 24, verset 45 à 51, est représentée l'image des fidèles et des mauvais serviteurs. Le fidèle serviteur est ainsi caractérisé parce qu'il fait au bon moment ce dont son maître l'a chargé et il le fait. Il le fait vraiment. Jusqu'au retour de son maître, le mauvais serviteur, lui, se dit « Voilà, mon maître ne reviendra sûrement pas avant un bon moment. » Et il commence à s'amuser et à battre ses compagnons, tandis que le fidèle serviteur sera établi gérant de tous les biens de son maître. Le mauvais serviteur, par contre, récoltera son courroux. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura, en effet, des pleurs et des grincements de dents. Et comment ? Saint Matthieu, chapitre 24, verset 51. Voyez-vous, ces deux serviteurs sont des hommes que le maître a placés. Ce sont les véritables successeurs du Christ. Le Seigneur Jésus dit ici quelque chose d'essentiel qui ne sera pas souvent entendu, c'est-à-dire la déchéance du mauvais serviteur, elle commence quand il repousse loin la venue de son maître, bien loin, et il se donne plus de temps pour s'amuser. Aujourd'hui, n'entendons-nous pas souvent la phrase « notre maître ne viendra pas avant bien longtemps » et beaucoup veulent dire « il viendra bientôt » mais jusqu'à présent, il ne s'est absolument rien passé. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 3, il est dit que dans les derniers jours dans lesquels nous sommes actuellement, des moqueurs viendront, ils sont déjà là, et diront où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme au commencement de la création. Jésus décrit dans cette image les résultats d'une telle attitude, l'égoïsme, le goût du plaisir, la dépendance, la cupidité, la brutalité, la dureté du cœur, la paresse et l'indiscipline. Or, il me semble que le climat sur toute cette planète a terriblement changé en peu de temps. N'y a-t-il pas des feux fabuleux ? N'y a-t-il pas des sécheresses graves ? N'y a-t-il pas des inondations ? N'y a-t-il pas des tremblements de terre ? Et j'en passe. Et c'est que le début, car le pire est à venir. Voyez-vous, une vie de chrétien qui n'attend pas le retour du Seigneur, elle va s'égarer. Ce sera donner un sens au mot. Il est absolument sans but, car il n'a pas de tête. Car le centre du corps, c'est Jésus lui-même. C'est ce que devrait être pour nous, le centre du corps. C'est Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Et pas, par exemple, ma petite personne. Prenez les passages de la Sainte Bible qui parlent de l'espoir du Fils de Dieu. Vous verrez que l'on parle du retour de Jésus comme étant toujours lié à la sanctification et vice-versa. Notez Saint Jean chapitre 3 verset 2 et 3, notez Hébreux chapitre 12 verset 14, Ensuite, Corinthiens, 1 Corinthiens 4, verset 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, et Hébreux, chapitre 10, verset 23 à 25. Et quel est l'aboutissement d'une vie de chrétien sans aucun but? Il, Jésus-Christ, le mettra en pièces, malheureusement. Et il lui donnera sa part, d'accord, avec les hypocrites. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et comment? Saint Matthieu, chapitre 24, verset 51. La formule « pleurs et grincements de dents » est toujours dans la Sainte Bible un repère pour la situation des perdus, qui doivent subir la condamnation éternelle. Bien sûr, dans ce symbole, il s'agit de la conversion des chrétiens baptisés. Le Nouveau Testament est plein de tous ces arguments, tels que la recommandation à la vigilance, à la prière et évidemment à la repentance, ainsi qu'à la conversion, ça se comprend, et un chrétien qui croit pouvoir se passer de la repentance, par exemple, eh bien, il se trompe lourdement. De châtiment, par exemple, s'il croit qu'il n'y a pas de châtiment par le Seigneur, et de renouvellement perpétuel qui sera primordial par l'Esprit Saint du Seigneur, et ainsi spirituellement déjà, s'il n'a pas reçu cela, il est spirituellement déjà quoi? Vivant? Non, mort. Et sur le chemin, il est sur le chemin de la condamnation s'il ne change pas en cours de route. Nous pouvons perdre évidemment la grâce de Dieu et laisser échapper notre salut, c'est vrai. Mais nous voyons aussi la fidélité de notre Seigneur et notre Sauveur qui nous rappelle sans cesse à l'ordre. Les personnes qui sont prévenues, elles ne peuvent finir en enfer, en tout cas pas sans autre, car là-bas, on ne trouve que des volontaires qui se sont tout simplement moqués du ciel. Jésus le Seigneur m'a chargé de conduire cette vérité avec rigueur devant les yeux de son peuple. Et tous ceux qui ont entendu cette étude sont donc maintenant avertis. Je prie pour que beaucoup de conversions puissent s'opérer et qu'on se repente et que, dès à présent, beaucoup de grandes choses puissent être faites avec Jésus-Christ. Car le Seigneur revient bientôt, chers amis. Si vous êtes peut-être choqués par ces études, ne réagissez pas avec chair et sang, mais portez vos questions et vos doutes dans la prière à Jésus-Christ. Il répondra à vos questions, car il est dit dans Saint Jean chapitre 10, verset 31, que les brebis entendent sa voix. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Prions donc. Ô merveilleux Seigneur Jésus, merci pour ton salut offert à quiconque t'a accepté dans son cœur. Oui, une fois de plus, nous nous réjouissons car le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les sept sceaux, afin que le salut, c'est-à-dire l'année du jubilé, puisse être proclamé sur toute la terre. Seigneur Jésus-Christ, nous désirons que l'amour de Dieu puisse être manifesté dans la délivrance de la race humaine perdue. Oui, Tu nous répètes sans cesse avec un amour inégalable, venez à moi, vous qui êtes travaillés et chargés, et je vous donnerai du repos. Car quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, et quand ils seraient comme de la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Merci Jésus pour la promesse que si le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il vienne au Seigneur et il, Jésus-Christ, aura compassion de lui, qu'il vienne donc devant notre Dieu, car il pardonne avec largesse. Oui, bien-aimé Jésus-Christ, tu nous encourages en nous rappelant que ce ne sont pas les hommes de bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont ceux qui sont malades, qui sont mal dans leur peau, qui sont dépressifs, qui sont démoralisés, car tu dis « Nul ne vient au Père que par moi, par Jésus-Christ, car en nul autre il y a le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en Jésus le Messie vivra quand même, il serait mort, et quiconque vient et croit en Jésus-Christ vivra au-delà de cette vie. » Je répète, vivra au-delà de cette vie. Alléluia, gloire à Dieu. À Dieu le Père, au Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement et à demain matin, Dieu voulant, la suite de cette nouvelle série. Au revoir. Mes très chers amis.